Bonjour cher Emmanuel et bonjour à toutes, bonjour à tous. La philosophe Simone de Beauvoir entre dans la bibliothèque de la Pléiade par ses textes autobiographiques. Mémoire d'une jeune fille rangée, parue en 1958, qui décrit l'arrachement à une enfance heureuse et bourgeoise pour acquérir une indépendance. La force de l'âge, qui raconte la vie de la jeune femme jusqu'à la libération de Paris en 1944. La force des choses, récit du couple Sartre-Beauvoir, ainsi que d'autres récits du jeu. Mais le récit de soi n'est-il pas toujours récit d'autre que soi? Et pourquoi avoir commencé par publier les mémoires de Simone de Beauvoir et non ses romans ou ses essais de philosophie?
Écrire ses mémoires, ça n'était pas seulement parler de moi, c'était profondément parler de mon époque. On m'a reproché quelquefois d'avoir passé tellement de temps à écrire une autobiographie. On m'a dit qu'il fallait que je sois bien narcissiste ou bien égocentriste. Je pense ce reproche complètement faux. Parce que si j'ai voulu parler de moi, c'est pour témoigner sur mon époque et sur un certain nombre de choses qui me dépassent.
Bonjour Jean-Louis Janel.
Bonjour.
Bienvenue sur le chemin de la philosophie.
Merci.
Vous avez l'air ému et amusé d'entendre la voix de Simone de Beauvoir.
Oui, je trouve que c'est une voix assez étonnante. En général, elle choque un peu. On ne s'attend pas à cette espèce de voix un peu rauque comme ça, très rapide, avec ce rythme. Mais c'est Beauvoir, c'est la voix de son style, c'est la voix de son écriture et j'aime ça.
Et c'était en 1964 sur Radio-Canada au micro de Martine de Barcy. Alors on va l'entendre tout au long de cette émission parce que c'est l'avantage de faire une émission sur Simone de Beauvoir, c'est qu'on peut entendre sa voix, sa vraie voix et la voix à travers ses textes, à travers des textes lus par Nicole Garcia aujourd'hui qui interprétera Simone de Beauvoir pour vous. Vous avez dirigé avec Eliane Le Carne-Tarbonne les mémoires de Simone de Beauvoir, donc parues hier dans la bibliothèque de la Pléiade. Dans l'extrait qu'on vient d'entendre, elle distingue autobiographie et mémoire. Alors quelle est la différence entre les deux?
Ce qui est très étonnant, elle fait la distinction, et je ne connaissais pas cette archive, je vous remercie de me la faire découvrir, elle fait cette distinction alors qu'elle ne la fait pas toujours dans ses textes et qu'elle emploie les termes indifféremment, comme on le faisait d'ailleurs à l'époque. On supposait que mémoire équivalait autobiographie. En réalité, non, la différence est très grande, elle est essentielle même. Il est de fait que Beauvoir commence par une autobiographie qu'elle intitule, mais par ironie, par antiphrase, « Mémoire d'une jeune fille rangée ». Par définition, une jeune fille rangée n'écrit pas ses mémoires, elle a une vie rangée, qui est celle des femmes de sa classe sociale, et donc pour laquelle rien n'est à dire ou à raconter de manière rétrospective. C'est donc un titre un peu antiphrastique, c'est un récit d'enfance, c'est une autobiographie dans les formes qu'elle ne pensait pas lorsqu'elle a commencé, continuer, poursuivre. Elle ne poursuit qu'en passant du côté des mémoires. Et c'est ce geste qui consiste à passer du côté des mémoires, ce qu'elle fait au fur et à mesure de la force de l'âge et puis pleinement dans la force des choses, qui est un geste étonnant. On attend d'une femme qu'elle écrive son autobiographie, qu'elle raconte sa formation, son enfance et même qu'elle se complaise dans son enfance, comme a pu le faire Colette par exemple. Beauvoir, non, décide de faire de son existence un cadre d'appréhension, on pourrait dire, quelque chose de partagé avec les gens de sa génération. Elle écrit ce qui se passe dans son existence durant la guerre alors qu'elle n'a pas été une résistante, qu'elle n'a pas été poursuivie, en supposant que son existence durant la guerre et après la guerre, surtout évidemment au moment de la libération, va parler à ses contemporains parce que c'est une existence qui est partagée où chacun d'entre eux pourra se reconnaître dans sa vie à elle. Donc ce choix est assez inattendu de la part d'une femme.
Et c'est ça la différence.
C'est ça les mémoires.
Et c'est ça la différence entre une autobiographie en et fait, les mémoires. Elle dit, si j'ai voulu parler de moi, c'était pour témoigner sur mon époque et sur un certain nombre de choses qui me dépassent.
Tout à fait. Et en réalité, la différence, elle tient à deux formes d'exemplarité. L'exemplarité de l'autobiographe, c'est une exemplarité qui est psychologique et morale. J'écris et je entre en moi-même en supposant que chacun pourra se reconnaître dans ce que je vais dire de plus profond, de plus intime de moi. C'est le geste de Rousseau, initié par Rousseau et poursuivi par beaucoup de ceux qui vont le suivre. En revanche, l'exemplarité propre au mémorialiste, c'est une exemplarité qui est de type social et historique. Mon parcours de vie, mes choix, mes actions, bien sûr, ou ce que j'ai subi au cours de l'histoire, vont parler aux autres, leur permettre de comprendre ce qu'ils ont vécu, leur permettre de comprendre ce qui a été partagé par tous les membres d'une génération. Donc ce sont deux formes d'exemplarité très différentes d'une certaine manière, même si, bien sûr, aucune ligne ne permet de trancher de manière nette et précise. Les deux se mêlent chez Beauvoir notamment.
Vous êtes professeur de littérature française des 19e et 20e siècles à l'université de Rouen, Jean-Louis Janel, et vous avez publié un ouvrage sur Malraux, film sans image, une histoire des scénarios non réalisés de la condition humaine. Donc on voit que vous n'avez pas toujours travaillé sur Simone de Beauvoir. Vous l'avez découvert à travers ses mémoires, c'est comme
oui,
ça qu'on peut le comprendre.
J'ai fait une thèse sur les mémoires en réalité, où j'avais au centre de mon corpus, bien sûr, les mémoires de guerre du général de Gaulle, les anti-mémoires de Malraux et les mémoires de Beauvoir. Ce qui était pour moi extraordinaire parce que Beauvoir est la seule grande mémorialiste. Ce qui était intéressant, dans mon cas, c'est qu'elle n'était pas reconnue comme telle. On parle toujours de ses écrits autobiographiques, moi je les lisais comme des mémoires. Et c'était un geste qui me semblait essentiel parce que j'y voyais la reconnaissance de la dimension historique et politique du texte beauvoirien, ce qui est en général ignoré. On veut la lire, on veut un peu l'enfermer, la cantonner à une espèce de récit un peu intimiste où l'on chercherait des cancans, etc., des révélations sur Sartre, des portraits un peu inattendus ou sur les contemporains. Moi, j'y vois tout à fait autre chose. Il me semble que les mémoires de Beauvoir, et par leur ampleur, l'ampleur du cycle, sont d'une certaine manière la seule vraie histoire personnelle incarnée, physiquement incarnée, de la seconde moitié du siècle. On va de 1920 à peu près, la fin des années 20, jusqu'à 1970 ou 80-81.
Donc c'est par intérêt historique en fait.
C'était la dimension historique de Beauvoir qui m'intéressait. Et on n'a pas de meilleure représentation de ce qui a été vécu durant ces années-là, me semble-t-il, que le récit en continu de Beauvoir, qui est plus ou moins attentive à l'histoire de son temps, selon les époques, bien sûr. Au moment de la force de l'âge, elle le dit beaucoup, mais qui s'oblige toujours à reconstituer cet arrière-plan et à se situer. Et c'est la dialectique entre sa vie personnelle et cet arrière-plan qui me semble précisément essentiel chez elle. On a peu ça dans les autres mémoires.
Et c'est en tout cas une partie de son travail que l'on connaît peu en France, en tout cas, parce qu'on y viendra. Simone de Beauvoir n'est pas la même en France et dans les pays anglo-saxons.
Absolument.
Est-elle ou non philosophe ? La question se pose encore, paraît-il. Écrivaine, ça, tout le monde s'accorde à le dire, mais alors la dimension des mémoires de Simone de Beauvoir est très peu explorée. Écoutez-la raconter comment elle se concevait elle-même comme étant quasiment apolitique avant de traverser ce que le XXe siècle allait lui réserver. Et puis ensuite, un extrait de son texte, La force de l'âge. Voilà cette phrase que je vous laisse découvrir qui atteste de l'irruption de l'histoire dans sa propre vie.
Pendant ma jeunesse, de 21 à 31 ans, enfin disons jusqu'à la guerre, jusqu'en 40, j'étais quand même très très apolitique. Et je pense d'ailleurs qu'il était intéressant de dire ce qui se passait, non pas en tant que je le vivais, mais dans la mesure aussi bien où je l'ignorais. Parce que je trouve que les gens se définissent autant parce qu'ils ignorent que parce qu'ils connaissent. Ensuite, à partir de la guerre, j'ai compris que ce qui se passait dans le monde, c'était ma propre histoire, c'était mon affaire, et j'ai vécu d'une manière extrêmement intense l'occupation, la résistance. J'ai vécu aussi très intensément toute la période qui a suivi, et plus que tout alors, peut-être, les années de la guerre d'Algérie, dont j'ai beaucoup parlé dans La force des choses, parce que là, c'était vraiment ma vie intime quotidienne de 54 jusqu'à 62, surtout de 56 jusqu'à 62. Ça empoisonnait complètement l'air qu'on respirait, et toutes les conversations, toutes les occupations étaient sur cet arrière-plan qu'on ne pouvait pas oublier, pas seulement moi, mais tous les gens qui m'entouraient.
Soudain, l'histoire fondit sur moi. J'éclatais. Je me retrouvais éparpillé aux quatre coins de la terre, lié par toutes mes fibres, à chacun et à tous. Idées, valeurs, tout fut bousculé. Le bonheur même perdit son importance. En septembre 1939, je notais, pour moi, le bonheur était avant tout une manière privilégiée de saisir le monde. Si le monde change au point de ne plus pouvoir être saisi de cette façon, le bonheur n'a plus tant de prix. Et de nouveau, en janvier 1941, j'écrivais que mon ancienne idée de bonheur me paraît courte. Elle a dominé 10 ans de ma vie, mais je crois que j'en suis presque totalement sortie. En fait, je n'y échappais jamais tout à fait. Plutôt, j'essayais de concevoir ma vie comme une entreprise autonome et fermée sur soi. Il me fallut découvrir à neuf mes rapports avec un univers dont je ne reconnaissais plus le visage. C'est cette transformation que j'avais racontée.
Soudain, l'histoire fondit sur moi. J'éclatais. Cette rencontre entre le jeu personnel et l'histoire avec un grand H, c'est celle que raconte Simone de Beauvoir dans La force de l'âge. C'est le sujet de l'émission aujourd'hui sur les chemins de la philosophie à l'occasion de la parution en Pléiade des mémoires de Simone de Beauvoir. sous votre direction, entre autres Jean-Louis Janel, c'est vous qui êtes avec nous en studio aujourd'hui pour en parler. Cette phrase, soudain l'histoire fondit sur moi, virgule, j'éclatais, condense tout. Toute la discussion qu'on a eue jusque-là, en tout cas.
Absolument. Ça condense tout et c'est une phrase assez extraordinaire. C'est finalement le chemin de Damas de Beauvoir. C'est le moment où sa vie bascule. Alors, d'une certaine manière, le récit construit cette rupture. Elle la construit comme nette, tranchée, ce qu'elle l'est moins, d'une certaine manière. Parce qu'il se trouve que durant la guerre, ce passage se situe en 39 dans le récit. Or, Beauvoir a eu une guerre peu engagée d'une certaine manière. Elle n'a pas résisté directement, même si avec Sartre, ils ont tenté, lorsque Sartre est revenu d'Allemagne. C'est progressivement après la guerre, d'une certaine manière, que Beauvoir a vraiment pris acte de l'importance de l'histoire et qu'elle s'est ouverte à cette histoire. Et ça a été notamment au moment de la guerre d'Algérie qui a été absolument cruciale pour elle et où elle a revécu parce qu'elle écrivait le tome de la force de l'âge et puis ensuite celui de la force des choses au moment même de la guerre d'Algérie. Donc il y avait superposition, croisement entre l'acte d'écriture, de reconstitution de la guerre et la guerre d'Algérie elle-même. Il y a eu confusion entre les deux. Mais ce qui est important, effectivement, c'est le fait que l'ensemble du cycle est porté par cette espèce de ligne rouge qui est l'ouverture aux autres, l'ouverture à autrui. Et on peut voir dans cette formule « je me retrouve éparpillé aux quatre coins de la terre, lié par toutes mes fibres à chacun et à tous », une définition même du genre des mémoires telle qu'elle le conçoit. Ce qui est assez étonnant de la part d'une femme dont le statut social ne la prédispose pas à l'époque à se sentir liée aux autres par ses actes, par ce qu'elle fait, par son parcours. Et il y a là, me semble-t-il, peut-être une dimension à l'intérieur même de la littérature qui est proprement philosophique, cette espèce de conscience que Beauvoir a d'inclure dans son existence, la nécessité d'inclure dans son existence la vie des autres. Et c'est très lié, me semble-t-il, à la conception qu'elle se fait de l'intellectuel. Vous savez, dans la force...
Oui, j'allais vous dire quel lien avec la philosophie. Enfin, alors, ce serait magnifique que la définition du philosophe soit celui qui intègre tous les autres dans lui-même.
Mais... Chez elle, oui. Parce que c'est lié à la conception même de l'intellectuel. Tout remonte aux mémoires de jeune fille rangée. Vous savez, il y a cette amitié très forte qui la lie à Zaza. Or, Zaza est dominée par une famille dont le statut social est à peu près semblable, grosso modo, à celui de la famille de Beauvoir, mais les parents de Beauvoir ne sont pas fortunés. Ils ont perdu leur fortune et le père, à son grand désespoir, sait qu'il ne pourra pas marier ses filles, elles n'ont pas de dot, elles vont devoir travailler. Et donc il se résout à ce que ses filles soient, et notamment Beauvoir, soient une intellectuelle, elle travaillera, mais c'est une femme déchue, c'est une femme, elle a raté, c'est une ratée de la famille. Dans le cas de Zaza, en revanche, la famille est une famille puissante, une famille catholique, bourgeoise, dominante, et la mère de Zaza veut un bon mariage pour sa fille. Elle refuse donc l'amour de sa fille, l'amour que sa fille a pour celui qu'on nomme Pradel et qui est Merleau-Ponty dans le récit, et elle va en mourir, c'est ce que raconte Beauvoir. Or, Beauvoir dit très explicitement dans son récit que Madame Mabie, donc celle qu'elle appelle Madame Mabie, qui s'appelle Madame Lacoing, haïssait les intellectuels. Pourquoi ? Parce que les intellectuels représentent précisément, depuis l'affaire Dreyfus, ces gens qui n'appartiennent à aucune classe sociale, qui sont hors classe sociale, qui pensent pour les autres, qui pensent la collectivité, le destin de la collectivité, qui juge depuis des opinions ou des valeurs qui sont abstraites aux yeux de gens qui sont profondément maurassiens, pour qui il n'y a de vérité que incarnée dans une classe sociale, dans un pays, dans une race, dans etc. Donc ce conflit, et elle a une phrase très très forte qui permet de comprendre pourquoi l'ouverture à la collectivité est si importante dans les mémoires de jeune fille rangée. Elle dit « J'étais entre deux camps et aucun compromis n'était possible. Entre les bien-pensants et les intellectuels, les bien-pensants voulaient l'anéantissement des intellectuels et réciproquement. L'anéantissement, c'est très fort. C'est très, très fort. Donc, toute la vie de Beauvoir, elle va être orientée vers cette espèce, cette manière d'assumer de plus en plus, avec Sartre, le statut de l'intellectuel, c'est-à-dire de faire de sa vie quelque chose qui concerne et qui est concerné par la vie de tous les autres, même si cette personne est en Afrique ou... quel que soit le pays, en Chine ou ailleurs.
Je ne résiste pas au plaisir de lire une citation des mandarins sur les intellectuels, peut-être la connaissez-vous. « Je suis un intellectuel, ça m'agace qu'on fasse de ce mot une insulte, les gens ont l'air de croire que le vide de leur cerveau leur meuble les couilles.
» C'est très beau, oui.
Tout est dit sur l'intellectuel, selon Simone de Beauvoir, incarné ici par un autre personnage.
Absolument.
Mais alors, ce statut d'intellectuel, vous faites bien d'insister sur cette dimension-là, parce que c'est ainsi qu'elle se revendique, on l'a compris. Vous avez dit à plusieurs reprises, il est assez étonnant qu'une femme écrive des mémoires. Oui. Simone de Beauvoir dit souvent, se présente comme intellectuelle et comme femme. Qu'est-ce que cela change à la rédaction de ses mémoires ?
Alors, non, étonnant. En réalité, ça le devient d'une certaine manière. Parce qu'il y a une tradition des femmes mémorialistes, princesses, femmes dirigeant des salons, etc. Il y a eu une longue tradition. Et étrangement, au XXe siècle, au moment où les femmes commencent à acquérir des droits, les femmes se réfugient du côté de l'autobiographie, de récits plus intimistes et délaissent quelque peu, même si certaines d'entre elles en ont écrit d'important, mais moins connues d'une certaine manière. Des femmes engagées politiquement ou autres, notamment Weiss, elles délaissent quelque peu le modèle des mémoires, ce qui est, me semble-t-il, dommageable, et c'est pour ça que Beauvoir joue un rôle si important. C'est d'une certaine manière la seule qui assume l'idée... Alors, je voudrais... Enfin, je vais faire un petit jeu de mots, mais... Ce qui était délicat dans le cas de Beauvoir, en raison de ses origines sociales bourgeoises, c'est qu'elle devient, à partir du moment où elle décide de vivre en concubinage avec Sartre, elle ne se marie pas avec lui... Elle devient une femme publique, ou l'équivalent d'une femme publique, l'équivalent d'une femme prostituée. Or, cette publicité ou cette
femme publique
de devenir
au
publique,
sens prostituée du
terme. Elle se prostitue en décidant de raconter son existence, qui est un geste assez qui choque sa mère, parce que on ne raconte pas sa vie de en particulier lorsqu'elle est si incorrecte et lorsqu'on vit en concubinage avec un homme, elle va raconter ses amours et les amours même de Sartre lui-même. Bref, il y a une manière de rendre publique sa vie qui est un choix de vie quand même qui engage Beauvoir et qui est quelque chose de risqué. Et cette manière de tirer un trait en quelque sorte sur son appartenance sociale, sur tout ce qui normalement devrait faire la respectabilité d'une femme, pour décider d'incarner des valeurs et d'incarner ces valeurs jusqu'au bout, et notamment la valeur clé de l'intellectuel qui est que sa vie concerne celle des autres et celle des autres concerne sa vie, les valeurs sont partagées, c'est une chose assez importante. Il s'agit de saisir le monde, et elle va le faire notamment en devenant avec Sartre un intellectuel qui ne cesse de voyager, de porter une certaine conception de la pensée et des valeurs politiques.
Mais c'est intéressant de voir qu'y compris dans sa relation avec Sartre, qui occupe une grande place de ses mémoires, la question de sa féminité passe souvent au second plan. On tient aujourd'hui Simone de Beauvoir comme étant d'abord l'auteur du deuxième sexe, qui donne ses lettres de noblesse au féminisme d'un point de vue philosophique. Et elle écrit dans La force de l'âge, « Je ne niais pas ma féminité, mais je ne l'assumais pas non plus. Je n'y pensais pas. Elle, sa féminité est une des données de mon histoire, non une explication. » Et elle insiste souvent dans sa relation en tant qu'intellectuelle et amoureuse avec Sartre, sur le caractère secondaire de sa féminité.
Oui, mais attention, lorsqu'elle écrit ça, elle parle de l'avant 1949, avant la publication de la force du deuxième sexe. Précisément. Or, ce qu'il faut voir, c'est que moi j'aime la lucidité de Beauvoir. Ça a été la condition de sa réussite. Cette façon de, vous savez, son père lui répétait tout le temps que sa fille Simone avait un cerveau d'homme et il y voyait une sorte de une louange, d'une certaine manière, en tout cas la petite fille prenait comme ça, parce qu'elle se savait intelligente, mais en même temps un reproche, ce qu'elle ne percevait pas à l'époque. Elle ne l'a compris que rétrospectivement, parce que malheureusement il aurait préféré avoir une fille mariable, agréable, etc. Donc c'était ambigu dans la bouche de son père. Non, chez Beauvoir, ça va devenir, à partir du moment où elle fait le choix de rejoindre le groupe des petits camarades, où elle trouve en eux des compagnons, des égaux, où elle se pense une égale de ces hommes qu'elle va fréquenter, Merleau-Ponty, Sartre, Nizan, etc. À partir de ce moment-là, Elle se donne la possibilité de créer, de devenir une écrivaine et une penseuse. Alors, elle ne se pense pas... Enfin, c'est compliqué, la question de savoir si elle se pense elle-même comme philosophe ou pas. C'est une question compliquée.
Et passionnante.
Mais elle se donne cette possibilité de vivre à égalité avec les autres hommes. Donc, on pourrait voir dans cela une sorte de refus de sa féminité. Je ne pense pas que ce soit le cas. C'est simplement une neutralisation qui lui donne la possibilité de devenir non pas la muse, ce que toutes les femmes en général d'un homme sont, non pas la muse de Sartre, mais une écrivaine qui, à égalité avec lui, va faire son œuvre.
Alors, à égalité, oui, quand on connaît la fin. Dans les mémoires d'une jeune fille rangée, Simone de Beauvoir raconte sa rencontre avec Sartre et raconte comment la première fois qu'elle le voit, et puis toutes les rencontres qui vont suivre, elle se sent, c'est son expression, on va écouter le texte dans un instant, intellectuellement dominée par lui.
C'était la première fois de ma vie que je me sentais intellectuellement dominée par quelqu'un. Beaucoup plus âgé que moi, Garrick, Naudier m'en avaient imposé, mais de loin, vaguement, sans que je me confronte à eux. Sartre, tous les jours, toute la journée, je me mesurais à lui, et dans nos discussions, je ne faisais pas le poids. Au Luxembourg, un matin, près de la fontaine Médicis, je lui exposais cette morale pluraliste que je m'étais fabriquée pour justifier les gens que j'aimais, mais à qui je n'aurais pas voulu ressembler. et l'a mis en pièces. J'y tenais parce qu'elle m'autorisait à prendre mon cœur pour arbitre du bien et du mal. Je me débattis pendant 3 heures. J'ai dû reconnaître ma défaite. En outre, je m'étais aperçu au cours de la conversation que beaucoup de mes opinions ne reposaient que sur des partis pris, de la mauvaise foi ou de l'étourderie, que mes raisonnements boitaient, que mes idées étaient confuses. Je ne suis plus sûre de ce que je pense, ni même de penser. Notai-je, désarçonnée. Je n'y mettais aucun amour propre. J'étais beaucoup plus curieuse qu'impérieuse. J'aimais mieux apprendre que briller. Mais tout de même, après tant d'années d'arrogante solitude, c'était un sérieux événement de découvrir que je n'étais ni l'unique ni la première. Une, parmi d'autres, et soudain incertaine de ses véritables capacités. Car Sartre n'était pas le seul qui m'obligeait à la modestie. Nizan, Aron, Politzer avaient sur moi une avance considérable. J'avais préparé le concours à la va-vite. Leur culture était plus solide que la mienne. Ils étaient au courant d'un tas de nouveautés que j'ignorais. Ils avaient l'habitude de la discussion. Surtout, je manquais de méthode et de perspective. L'univers intellectuel était pour moi un vaste fatras où je me dirigeais à tâtons.
Vous écoutez France Culture, les chemins de la philosophie. Nous parlons de Simone de Beauvoir, aujourd'hui en compagnie de Jean-Louis Janel, qui a dirigé avec Eliane Lecarne-Tabonne la publication des mémoires de Simone de Beauvoir en Pléiade, qui sont parues hier. Dans le texte que nous venons d'entendre, Jean-Louis Janel, alors le texte est formidable parce qu'on y entend un rapport de force qu'on aimerait... Oui. Ne pas nommer, on aimerait justement qu'elle se présente d'emblée d'égal à égal à Sartre. Exactement. Ça n'est pas le cas. Alors, juste une précision avant que vous répondiez sur ce sujet qui est vraiment sur lequel il faut qu'on s'arrête. On est obligé de parler de Sartre quand on parle de Beauvoir. Oui. Alors, ça fait partie des lieux communs, se dire, mais Beauvoir, on peut penser Beauvoir indépendamment de Sartre, elle a sa pensée à elle, sa vie à elle. Oui, mais il faut savoir qu'elle-même en parle énormément, ouais. Et qu'elle assume complètement le lien quasiment sanguin, en tout cas vital, qui la lie à Sartre.
C'est une question essentielle. C'est peut-être, c'est la question peut-être centrale d'une certaine manière, et c'est ça qui réunit. On l'a dit, il y a deux Beauvoir d'une certaine manière, une Beauvoir française, une Beauvoir américaine ou anglo-américaine. C'est ça qui réunit les deux côtés de l'Atlantique et de la Manche. Alors, il faut pour commencer rendre à César ce qui est à César. Cette scène, elle a été notamment soulignée, commentée, décrite, analysée par Michel Le Dueuf dans un grand essai qui est peut-être le plus bel essai qu'on ait jamais écrit sur Beauvoir, qui est l'étude El Rouet, en 1989. Et elle a fait de cette scène une scène clé, et depuis, on l'a énormément commentée, parce qu'on y voit une espèce de défaite, mais de défaite que Beauvoir s'inflige elle-même, dans ce plan, comme si Beauvoir avait accepté la supériorité dense, à ce moment-là, de Sartre sur le plan de la philosophie. C'est Sartre qui, d'une certaine manière, inventerait les idées, et elle qui le suivrait. C'est une question compliquée, c'est ce que Michel Le Dueuf a nommé précisément le complexe d'Héloïse. Cette idée qu'une femme ne peut accéder à la pensée que par le biais, par la médiation du désir ou de l'admiration qu'elle éprouve à l'égard d'un homme.
C'est l'Héloïse d'Abélard.
L'Héloïse d'Abélard, tout à fait. Et ce serait la fatalité à laquelle succomberait toute une série de femmes et Beauvoir elle-même, alors même qu'elle écrit le texte fondateur de toute la pensée féministe, ce qui est un paradoxe. Alors, il y a des points effectivement qui donnent plus ou moins raison à cette lecture, mais je pense qu'on peut la dépasser aussi. C'est un texte qui est beaucoup plus compliqué qu'il n'a l'air. Il y a plusieurs points. Il y a déjà la Fontaine Médicis, qui n'est pas n'importe quel lieu. Il se trouve que Beauvoir est une jeune fille qui vit dans un milieu catholique écrasant, et que lorsqu'elle passe le bachot, dans sa jeunesse, elle le raconte, elle travaille à côté de la Fontaine Médicis, et elle découvre le monde de la pensée, elle y voit une espèce de bonheur extraordinaire, et c'est un premier changement, c'est un premier tournant, donc c'est un lieu très particulier dans son existence.
C'est au Jardin du Luxembourg.
Au Jardin du Luxembourg, tout à fait. Cette confrontation avec Sartre, elle est effectivement importante, mais elle est inégale. Et ce que refoule, Michel Le Dueuf le montre, mais Toril Moy l'a très bien montré aussi, qui est une grande spécialiste de Beauvoir américaine, l'a très bien montré, ce que Beauvoir elle-même refoule, c'est l'inégalité des conditions dans lesquels elle a été formée. Beauvoir a été élevée au Cours Désir, qui est un institut catholique, certes aux méthodes pédagogiques assez avancées, mais très fermé, très opprimant, très limité, où les jeunes filles reçoivent une éducation. À cette époque, les filles ne peuvent passer le bac que depuis quelques années, et dans des conditions qui sont tout de même plus difficiles. Et surtout, Beauvoir aurait voulu découvrir la philosophie. Dès qu'elle l'a découverte, c'est quelque chose qui l'a intéressée. Ses parents s'y sont opposés, très nettement. Elle a dû faire des études de lettres et des études de mathématiques, etc., avant de pouvoir enfin travailler à la philosophie. Elle ne l'a découvert que dans des conditions très délicates. Elle n'a pas pu tout de suite se rendre au cours en Sorbonne. Elle a eu une formation philosophique de bric et de broc, et bien moindre que celle de Sartre. Bref, elle a, on le sait, travailler la philosophie entre 26 et 29. 29, elle passe la grecque, la même année que Sartre. Sartre a raté la grecque l'année d'avant. Il a eu 8, 9 ans de philosophie dans les meilleures institutions. Henri IV, ensuite Louis le Grand, où il a préparé le concours. Il est à l'ENS. Beauvoir, non, ils ne se sont pas rencontrés à l'ENS. Ils se sont rencontrés à la Sorbonne. Donc, il y a une inégalité absolue dans l'accès à la philosophie. Et pourtant, en 1929, Beauvoir est deuxième derrière Sartre. Elle va se penser toujours deuxième derrière Sartre, alors qu'en réalité, elle n'a eu que quelques années de philosophie dans des conditions beaucoup plus difficiles.
Et elle l'a eu du premier coup,
et deuxième, ce qui n'est quand même pas rien. Donc, c'est tout cet arrière-plan que Beauvoir ne voit pas à l'époque. Mais à l'époque, elle est très jeune. C'est ça qu'elle va analyser ensuite dans Le Deuxième Sexe. Et Michel Le Dueuf montre merveilleusement que ce qu'il y a de plus extraordinaire dans Le Deuxième Sexe, c'est qu'une femme qui a été plongée dans un bain de masculinisme aussi poussé que celui de l'époque, très peu de femmes accèdent à la philosophie à ce moment-là, pratiquement aucune. Simone Veil et Beauvoir sont contemporaines, mais elles auront toutes les deux un parcours philosophique assez complexe. Donc aucune femme n'a, ou très peu de femmes accèdent à la philosophie de manière légitime, et surtout dans le lien qui l'unit avec Sartre, cette espèce de misogynie, on est obligé de le reconnaître tout de même, qui imprègne l'être et le néant. Vous savez que dans l'être et le néant, il y a ces oppositions continuelles entre l'action, qui est comme par hasard masculine, et la passivité, l'immanence, ce que Sartre appelle l'immanence, et qui est tout ce qui est détestable à ses yeux, la retombée dans l'être, l'en soi, les choses, etc. Tout ce qu'il faut chercher à fuir en se donnant un projet et en se voulant libre. Cette immanence, elle est toujours féminine, elle est toujours assimilée à l'identité féminine, à une supposée passivité féminine. Bref, cette philosophie existentialiste qui est elle aussi masculiniste, Beauvoir, tout en étant nourrie, réussit à la convertir et à en tirer une pensée féministe authentique.
Mais là où elle est d'autant plus formidable, c'est que dans le texte qu'on a entendu, Les Mémoires de jeune fille rangée, paraît en 1958.
Absolument.
Elle a écrit Le Deuxième Sexe en 49. En tout cas, oui. Il paraît en 49.
Oui.
C'est-à-dire que c'est 8 ans après, alors qu'elle décide de revenir sur sa rencontre avec Sartre, et qu'elle a déjà publié un ouvrage féministe, philosophiquement féministe, elle arrive à se remettre dans l'état d'esprit qui était le sien à l'époque, alors qu'elle n'avait pas encore écrit Le Deuxième Sexe, elle ne s'était peut-être pas formulé ces questions-là de cette façon-là, et à assumer l'inégalité qu'elle ressentait. Mais en fait, on dit qu'il y a quelque chose de peut-être d'humiliant, ou que c'est le complexe d'Héloïse dont vous parliez, mais c'est un signe d'intelligence supérieure que de reconnaître qu'au moment où elle rencontre Sartre, elle se sent inégale.
Absolument. Ça, c'est la valeur clé. C'est l'authenticité de Beauvoir. C'est le refus de la mauvaise foi. Et elle l'a dit à plusieurs moments. Des féministes le lui ont reproché après de ne pas avoir accepté cette philosophie qu'elle avait pourtant réalisée, mais presque sans le savoir, etc. Beauvoir a toujours eu comme souci de ne pas être dans la mauvaise foi, c'est-à-dire d'être dans un rapport juste à ce qu'elle a été et à ce qu'elle a voulu. Et on peut même aller un peu plus loin, et vous avez tout à fait raison, la raison pour laquelle Beauvoir, certes, se limite à ce moment-là, et elle ignore ses propres capacités, elle accepte une sorte de supériorité intellectuelle de Sartre. Ce qu'elle a toujours demandé, hein, Beauvoir a toujours dit dans Les Mémoires de jeune fille rangée, qu'elle désirait un homme, ou la rencontre avec un homme, qui puisse lui donner un sentiment de supériorité intellectuelle sur ce plan-là. Alors, je pense qu'on pourrait en faire une autre lecture.
Et Sartre n'est pas le seul, je précise juste, elle dit dans le texte, Sartre n'était pas le seul qui m'obligeait à la modestie, nisant Aaron Politzer avait sur moi une avance considérable.
Alors là, en revanche, c'est l'avance sur le plan des études. D'un point de vue intellectuel, je ne crois pas qu'elle le reconnaisse une avance. Vraiment, sincèrement. Et même, elle est assez méprisante à l'égard de Aron, Nizan, pas tout à fait, mais en tout cas Aron, Merleau-Ponty même, et ou d'autres Gandillac dont elle a été...
Elle se considère supérieure à
eux. Elle se considère en général intellectuellement supérieure à eux, ou au moins égale. Au moins égale, tout à fait. Mais Sartre, non, effectivement. Alors, ce qui est intéressant, c'est de comprendre que, pour Beauvoir, l'alternative, c'est le célibat ou le mariage. Le mariage, elle le refuse. Le célibat, il la conduirait à être ces espèces d'institutrices, d'éducatrices, etc., autour desquelles elle a grandi et qui lui montrent un destin assez terne et assez déprimant. La condition de l'égalité, pour Beauvoir, elle va passer par cette confrontation avec Sartre, avec un homme qui la confronte à ses propres mentes, à ses propres limites. Personne, aucun homme ne lui avait donné l'impression d'être elle-même limitée. Pourquoi est-ce que c'est important ? Parce que Sartre provoque cette espèce de crise de scepticisme. Vous savez, le scepticisme au sens où Cavell parle d'une espèce de crise sceptique, lorsqu'elle dit « je ne suis plus sûr de ce que je pense, ni même de penser. Je ne suis plus sûr de penser. » On est très proche de Descartes. Elle va refonder un cogito,
grâce même à plus la loin, rencontre. Parce que Descartes, lui, ne doute pas qu'il pense.
Alors, il ne pense pas. Et voilà, il ne doute pas qu'il pense. C'est même une crise sceptique plus fondamentale, d'une certaine manière. Mais en tout cas, elle ne sait même plus si elle pense. Donc, il y a une crise complète et Sartre est celui. Et de ce point de vue, ce texte montre une femme qui accepte l'idée que pour progresser, au-delà de ce que son éducation, la Sorbonne, etc., peut lui donner, d'une certaine manière, il faut rencontrer quelqu'un et c'est dans cette importance accordée à la relation. Ce n'est pas le cas de Sartre, effectivement, ça c'est vraiment le propre de Beauvoir. Dans cette relation, quelque chose va pouvoir se passer, une crise va pouvoir intervenir, mais une crise sur laquelle une confiance va se conduire parce que l'autre va me permettre de relancer ma pensée. Je vais construire quelque chose, trouver de nouvelles fondations, en quelque sorte, après cette crise sceptique qui va l'ébranler. Et elle va, d'une certaine manière, Sartre, qui est très peu individualisé dans le récit, dans les morts de jeune fille rangée, on n'en dit pas grand-chose de Sartre. Il joue une fonction. Il est là parce que c'est celui qui résiste et qui offre à cette jeune femme la possibilité de briser son isolement. C'est ce qu'elle dit. Je n'étais plus, elle découvre qu'elle n'était plus l'unique ni la première. Elle est une parmi d'autres. Or, ce une parmi d'autres, c'est évidemment une référence, enfin une annonce, puisqu'on est en 58, à la fin des mots de Sartre, qui paraîtront en 63, mais qu'il écrit déjà un peu à cette période. Cette fin qui est la découverte que Sartre fait, lui, dans son enfance, tout seul, sans personne d'autre, qu'il est un homme fait de tous les hommes et qui les vaut tous et que vaut n'importe qui. C'est la même expérience d'une sorte de...
C'est la fin des mots, oui.
C'est la fin des mots. C'est une même expérience d'une sorte de d'égalité radicale qui vont être la valeur clé de leur pensée existentialiste et de leur valeur d'intellectuel. Cette espèce d'égalité avec tout autre individu. Donc, chez Beauvoir, cette découverte, cette révélation, elle se fait dans le rapport à l'autre, dans la confrontation à l'autre, mais à un autre auquel on est lié par un rapport d'admiration, effectivement, et d'amour.
C'est très compliqué parce qu'on est obligé de prendre en compte des dimensions quasiment psychologiques, de savoir est-ce que... Alors, Simone de Beauvoir refuse la mauvaise foi. Est-elle totalement lucide sur son propre besoin d'avoir recours à Sartre qui le domine pour avancer intellectuellement ? Il n'y a pas de raison de le mettre en doute. Et peut-être qu'elle, au contraire, c'est là encore un signe d'intelligence que de reconnaître qu'elle a besoin de lui pour se mettre en crise.
Absolument.
Et pour avancer, ce que lui n'arrive pas forcément à faire.
Alors, ce qu'il ne reconnaît pas, et là, Sartre, malheureusement, est de mauvaise foi, je pense. C'est-à-dire que...
Mais parce que vous avez choisi votre camp.
Non, je pense qu'un Sartrien, vous savez, dans notre équipe, Nous travaillons avec Jean-François Louette qui a publié les mots et autres écrits autobiographiques de Sartre en Pléiade et qui est un Sartrien au départ et qui est un Beauvoirien aujourd'hui aussi et qui, je pense, serait d'accord avec moi pour dire que le point essentiel dans le couple Sartre-Beauvoir, c'est l'égalité complète et surtout le fait que Sartre et Beauvoir essayaient toujours leurs idées, les uns testaient la valeur
et de leurs idées. Et elle le raconte très bien.
Sartre demandait toujours... testait son idée avec Beauvoir, elle le relisait. Tous les textes de Sartre ont été relus, critiqués, et critiqués de façon dure, par Beauvoir. Toutes ses idées sont passées par Beauvoir. Leur rapport d'échange continuel était tel que, de toute façon, chacune des idées de l'un est partagée par l'autre. Or, ce qui est intéressant, c'est que leurs deux œuvres vont être complémentaires. Ils ne créent pas une œuvre en commun, ce ne sont pas les œuvres croisées, par exemple, de Aragon et Elsa Triolet. On est complètement dans autre chose. Ils ne se marchent pas sur les pieds, mais leurs œuvres se développent l'une à côté de l'autre sans que l'un puisse prétendre dominer l'autre. Ce qui est important, du coup, c'est que, d'une certaine manière, Sartre a eu autant besoin de Beauvoir que Beauvoir de Sartre. Simplement, Beauvoir n'apparaît pas ou peu, sauf dans les entretiens de la fin, parce que un homme se pense comme une espèce d'île ou fait plus facilement la séparation, la coupure entre vie privée.
Alors est-ce le genre, est-ce le tempérament,
l'éducation, je ne sais pas. Mais
on a du mal à croire à une. Elle le dit hein, cependant, nos pensées se sont si assidûment critiquées, corrigées, soutenues qu'elles nous sont toutes communes. C'est dans la force des choses. Elle parle ici de ses pensées, de celles de Sartre. Il est difficile de concevoir que leurs carrières respectives et leurs travaux respectifs, leurs recherches respectives et mutuelles se soient effectuées sans aucune rivalité.
Ah non, ça c'est le... Non, vraiment, alors pour le coup, et j'ai lu... J'ai eu accès, bien sûr, au moment de la préparation de la Pléiade, aux journaux de Beauvoir, donc à des écrits encore plus intimes, etc., où Beauvoir se dit parfois des peurs qui sont les siennes, des angoisses, etc. Non, vraiment aucune rivalité pour le coup. Sauf peut-être à la toute fin, vous savez, avec tout ce qui va se passer autour de Béni Lévy, où Beauvoir va être un peu jalouse de l'influence que Béni Lévy exerce sur Sartre à la toute fin, lorsqu'il est vraiment très vieux et assez malade et diminué. Donc, sauf à ce moment-là, vraiment, non, je ne pense qu'il n'y a eu aucune concurrence. Et cette espèce de... Et aussi bien de la part de Beauvoir que de la part de Sartre. Hein. Je pense que ça tient aussi au caractère de Sartre. Sartre ne s'entendait, il le dit d'ailleurs, il l'a toujours dit, ne s'entendait qu'avec les femmes. Il a tenté quelques amitiés qui ont toujours plutôt mal tourné. Bon, Nisan, elle s'est défaite. Camus, vous savez qu'elle s'est terminée de façon assez violente, etc. Les seules vraies amitiés de Sartre, ce sont des femmes, et en particulier Beauvoir. Et c'est la seule vraie complète égalité dans l'amitié qu'il a eue. Donc ça, c'est quand même, me semble-t-il, un point assez important, parce que cette espèce d'égalité totale, elle est quelque chose dont on n'a pas d'exemple, d'une certaine manière, dans les couples d'écrivains que l'on peut connaître. Et je pense que tous les deux ont eu le souci de le construire dès le départ. C'est Sartre qui, au début, poussait Beauvoir, lui demandait, la poussait à écrire, lui disait « Mais quand vous étiez plus jeune, vous pensiez un tas de petites choses, etc. Écrivez. »
Pourquoi ne vous mettez-vous pas en personne dans ce que vous écrivez? Vous êtes plus intéressante que tous vos personnages. C'est René, c'est Lisa, etc.
Voilà.
Lui qui l'encourage à dire « Je vais écrire ».
Il revendiquait son indépendance, il la poussait à l'indépendance, etc. Pour Beauvoir, ça n'a pas été facile au départ. En particulier, le fameux pacte d'une liberté sexuelle n'a pas été facile pour elle parce qu'il allait...
Les amours nécessaires, les amours contingentes.
La distinction entre amour nécessaire et amour contingente, tout simplement parce qu'elle allait contre son éducation catholique quand même profondément...
À savoir que Sartre et Beauvoir étaient l'amour nécessaire, indiscuté, que chacun du coup pouvait s'autoriser des amours contingentes.
Voilà. Alors, il s'en est autorisé un peu plus fréquemment et plus rapidement. Ça a été plus lent pour elle, mais elle l'a fait. Elle a eu de grandes histoires d'amour, vous le savez, dont elle n'a pas parlé tout le temps. Elle a mis en avant celle avec Nelson Algren, mais bien sûr, il y en a eu d'autres avec Bost, etc. Ça posait certains problèmes qui faisaient qu'elle ne pouvait pas les évoquer. Mais en tout cas, il y a chez Beauvoir, ça s'est fait plus lentement, mais ça s'est fait. Donc, cette égalité, je pense que c'est quelque chose d'acquis et qu'on ne peut pas... Je trouve un peu mesquin, comme on le lit parfois, d'aller chercher dans la correspondance de Beauvoir ou dans quelques petits aveux, etc., des signes de faiblesse ou de... Beauvoir a toujours revendiqué cette espèce d'égalité. Ça lui a toujours paru une valeur absolument essentielle. Et je pense qu'elle est réelle.
On a encore un texte à écouter ensemble, mais avant cela, une question. On a rapidement évoqué la différence entre la Beauvoir française, disons, et celle étudiée aux États-Unis. Comment expliquez-vous que Simone de Beauvoir soit plus facilement reconnue comme philosophe dans les pays anglo-saxons qu'en France ?
Alors,
quel est notre problème
pour ceux
qui n'arrivent pas à la concevoir comme philosophe ?
Bon, Beauvoir, de toute façon, était beaucoup plus lue au sein de l'université, en Angleterre et aux États-Unis. Elle a mis très longtemps à prendre sa place, elle la prend aujourd'hui. Je pense que l'application de la Pléiade en est aussi le signe. Mais il y a eu des thèses qui ont été faites par Delphine Pierre, par Annabelle Gollet-Martin ou d'autres, très bonnes thèses qui ont été publiées récemment et qui montrent que Beauvoir acquiert ce statut. Alors, il y a une chose qui est importante, c'est la façon dont, à mon avis, la façon dont fonctionne la philosophie féministe des deux côtés. Le féminisme en France est un féminisme qui s'est développé dans l'action, à partir des années 70, en dehors de l'université, chez des intellectuels qui confondaient leur existence, leur action, leur pensée. Et c'est déroulé dans des lieux qui n'étaient pas centraux au sein de l'université même, mais des lieux qui étaient plus périphériques, HESS, etc. Au contraire, la philosophie féministe en Angleterre et aux États-Unis a depuis longtemps une place centrale au sein même des universités. Donc Beauvoir y occupe une place absolument fondamentale et on a peine à imaginer l'importance qu'elle peut avoir. Il faut voir, si vous en avez l'occasion, regardez-le sur internet, le Companion to Simone de Beauvoir qui vient de paraître cette année, qui a été édité par Laura Ingenhold et Nancy Bower, qui est une grande philosophe, élève de Cavell, Nancy Bower, édité chez Wiley Blackwell. C'est un énorme ouvrage qui réunit une cinquantaine de philosophes et qui porte essentiellement sur le deuxième sexe, sur le reste de l'œuvre de Beauvoir également, mais essentiellement deuxième sexe, et qui montre une fécondité des travaux qui se font aujourd'hui aux États-Unis en particulier autour de Beauvoir philosophe qui est inimaginable en France. On continue à penser Beauvoir comme une essayiste. Et j'avoue que moi-même, je l'ai longtemps pensé. Aujourd'hui, je suis pleinement convaincu, effectivement, du fait que Le deuxième sexe est un texte qui est aussi important que L'être et le néant, qui est même plus lu, et dont les effets aujourd'hui sont plus importants que ceux que L'être et le néant a pu avoir. Parce qu'il a réellement fondé tout un courant de pensée. C'est un texte qui est tout aussi important aujourd'hui qu'il l'était en 49
pour même penser. Même s'il est critiqué en permanence. Hein.
Alors, il est
dans le milieu philosophique, dans le milieu féministe, on critique toujours le deuxième sexe, peut-être parce qu'il a fondé quelque chose.
Alors, je suis pas sûr qu'on le critique, on le discute. Ce qui n'est pas exactement la même chose. Autant on peut critiquer quand même assez violemment ces romans, par exemple, qu'on trouve mal écrits parfois, etc. Autant je crois que Le deuxième sexe n'est jamais critiqué en un sens vraiment...
Par des courants féministes contemporains, alors, si,
effectivement,
mais ce n'est pas la même
différencialiste,
chose.
Notamment sur la question de la maternité. Sur la question de la maternité, de la grossesse, etc., il y a eu des critiques du côté des courants différentialistes qui sont assez violentes, effectivement. Mais je pense qu'on la lit, qu'on s'en sert et qu'on la discute tout autant aujourd'hui dans les milieux féministes, en tout cas anglo-saxons, qu'autrefois. Et ça, c'est quand même le signe d'une espèce de vitalité qui est assez étonnante. Donc je pense que c'est plutôt la façon dont fonctionne la pensée féministe en France. Ceci dit, vous savez qu'il y a 3 ans, je crois, Le deuxième sexe a été mis au concours d'une grande école pour les scientifiques, je crois. Il était parmi les œuvres qui étaient travaillées et présentées comme une œuvre philosophique.
En philosophie.
Voilà. Alors c'est une philosophie, pas pour des étudiants de philosophie, mais en philosophie. Il fait partie pleinement du cursus, il est même inévitable dans les cursus de philosophie dans les pays anglo-saxons. Il l'est un peu moins, mais je pense que ça va l'être petit à petit du côté français.
Est-ce important ou non de mettre des étiquettes sur sa pensée, de l'appeler philosophe, littéraire, autobiographe ? La question pourrait être secondaire si Simone de Beauvoir elle-même ne disait pas adopter un style très différent selon le ton qu'elle emploie, le sujet qu'elle traite, c'est ce qu'elle affirme, c'est ce qu'elle affirmait le 15 janvier 1984 sur France 3. Alors on va écouter Simone de Beauvoir et puis un dernier extrait absolument bouleversant, c'est un extrait de Une mort très douce, 1964, dans lequel elle raconte la mort de sa mère et donc surtout le type de relation qu'elle entretenait avec sa mère avant sa mort. Écoutez ce texte qui est absolument bouleversant. Donc d'abord la voix de Simone de Beauvoir et puis la voix lue par Nicole Garcia d'Une mort très douce, le texte de Simone de Beauvoir.
Quand j'écrivais Le deuxième sexe, qui est mon seul essai important, je ne me souciais pas tellement de la manière dont c'était écrit. Sauf d'un certain passage où ça m'amusait de faire ce qu'on pourrait appeler un peu des petits morceaux de bravoure sur la ménagère, je me rappelle, des choses comme ça. Mais enfin, dans l'ensemble, il y avait des choses à dire et même s'il fallait les dire d'une façon un peu difficile, qui n'est pas tout à fait accessible peut-être à tout le monde, en employant du vocabulaire philosophique, c'est ce que je faisais. Je cherchais avant tout l'exactitude de ma pensée, à rendre l'exactitude de la pensée même théorique, plutôt que d'autre chose. Bien entendu, quand j'écris un roman, c'est tout à fait différent, puisqu'il faut arriver à faire vivre des êtres imaginaires, et pour ça, il faut que le langage même serve de chair et d'os à ces personnages. Et d'ailleurs là, ce qui m'intéresse aussi, c'est la différence qu'il y a entre justement un roman où on est dans la fiction et des récits autobiographiques où on est dans la réalité.
Jusqu'à la sortie de mon roman, L'invité, ma mère a presque tout ignoré de ma vie. Elle a essayé de se convaincre que moi, sur le chapitre des mœurs, j'étais sérieuse. La rumeur publique a démoli ses illusions. Mais à ce moment-là, notre rapport avait changé. Elle dépendait matériellement de moi. Elle ne prenait aucune décision pratique sans me consulter. J'étais le soutien de famille, en quelque sorte son fils. D'autre part, j'étais un écrivain connu. Ces circonstances excusaient en partie l'irrégularité de ma vie, que d'ailleurs elle réduisait au minimum, une union libre, moins impie, somme toute, qu'un mariage civil. Souvent choquée par le contenu de mes livres, elle était flattée par leur succès. Mais par l'autorité qu'il me conférait à ses yeux, il aggravait son malaise. J'avais beau éviter toute discussion, ou peut-être précisément parce que je les évitais, elle pensait que je la jugeais. Un jour, elle m'a dit « Les parents ne comprennent pas leurs enfants, mais c'est réciproque. » Nous avons parlé de ces malentendus, mais dans leur généralité, et nous ne sommes plus revenus sur la question. Je frappais. J'entendais un petit gémissement, le frottement de ses pantoufles sur le plancher. Encore un soupir. Et je me promettais que cette fois, je trouverais des sujets de conversation. Un terrain d'entente. Au bout de 5 minutes, la partie était perdue. Nous avions si peu d'intérêts communs. Je feuilletais ses livres, nous ne lisions pas les mêmes. Je la faisais parler, je l'écoutais, je commentais. Mais parce qu'elle était ma mère, ses phrases déplaisantes me déplaisaient plus que si elles étaient sorties d'une autre bouche. Et j'étais aussi crispée qu'à 20 ans, quand elle essayait, avec son ordinaire maladresse, de faire de l'intimité. Je sais que tu ne me trouves pas intelligente, mais en tout cas, c'est de moi que tu tiens ta vitalité. Ça me fait plaisir. Sur ce dernier point, j'aurais de grand cœur abondé dans son sens, mais le début de sa phrase coupait mon élan. Ainsi nous parlions-nous mutuellement.
Quel texte, Jean-Louis Janel, ouais, quand même, magnifique. Ce texte, ce récit de toute l'ambivalence qui peut nourrir le sentiment d'une fille à l'égard de sa mère, avec cette phrase terrible, peut-être de justesse, peut-être de cruauté. Et j'étais aussi crispée qu'à 20 ans, quand elle essayait, avec son ordinaire maladresse, de faire de l'intimité.
Ça fait partie des idiotismes de Sartre et Beauvoir. Vous savez, ce sont des expressions qui sont les leurs, qui partagent tout le temps. Par exemple, ils disent toujours « ça me fait poétique ». Pour dire d'une situation, on se sent un peu Sartre dit mouillé, etc. C'est-à-dire un matin, une coucher de soleil, etc. On se sent tout poétique, tout frais, tout. Oui. Voilà, ils ont ce genre d'expression. Et là où elle devrait dire de créer quelque chose d'intime ou une intimité.
Ah mais oui, mais
de l'intimité.
Ouais. Tout est dans ce faire d'eux. On sent le côté factice.
Et voilà, ça, on souligne la facticité, l'impossibilité de construire quelque chose, un rapport qui... Alors, c'est très beau parce que dans cette scène, on voit en arrière-plan une scène qu'on a aussi, là encore, dans Les Mémoires de jeune fille rangée, où Beauvoir raconte qu'un jour, elle a ses premières règles et que sa mère, bien embêtée, vient la voir en lui disant « j'ai quelque chose à te dire » et que Beauvoir, terrifié à l'idée que sa mère puisse lui parler des questions sexuelles, lui dit « je sais déjà tout », comme ça. Et sa mère dit « très bien ». Et la conversation s'arrête là, effectivement. Donc rien n'est dit. Et Beauvoir, en réalité, ignore tout. Elle est une jeune fille très très naïve à ce moment-là. Elle va y insister et on va le découvrir au fur et à mesure. Et elle va le rester assez longtemps. Donc, d'une certaine manière, avec sa mère, la question de la conversation, qui est une question essentielle, hein, parce que chez Sartre et Beauvoir, toute la pensée repose sur une espèce d'éthique de la conversation qu'ils ont entre eux, avec leurs proches et avec les leurs. Donc la question de la conversation est fondamentale chez eux. Elle est impossible avec la mère et elle ne va se faire qu'à la toute fin. Vous savez que ce récit, Une mort très douce, il survient. On est dans un moment très particulier. Beauvoir vient de terminer La force des choses. Elle pense avoir terminé son grand cycle mémorial. Le texte est terminé et en octobre 63, sa mère tombe, se casse le fémur. 23 octobre 63. Beauvoir est catastrophée et la mort va se dérouler très très vite. Elle est à l'hôpital et elle va mourir tout début décembre. Beauvoir, durant cette période, est tous les jours pratiquement avec sa mère à l'hôpital et elles vont renouer une relation. C'est cette relation renouée, mais de façon assez délicate, difficile, qu'elle raconte dans ce petit récit. Elle a pris des notes durant la maladie de sa mère et la mort de sa mère et elle, immédiatement après, en 64, elle écrit durant trois mois à peu près, elle écrit ce petit texte qui est un texte merveilleux. Quand on le lit, on voit Annie Ernaux, on voit toute une littérature contemporaine qui est une littérature contemporaine du constat clinique de l'honnêteté à l'égard de certaines émotions qui sont à ceux de honte, de gêne, de difficulté, etc. Et en même temps, une espèce d'émotion, d'émotivité très contenue, très particulière. Vous savez, ce qui moi gêne particulièrement dans ce récit, c'est qu'on est à l'opposé de Colette, c'est-à-dire de cette espèce d'embellissement, de mythification de la personnalité de la mère, Sido. Voilà, la mère toujours merveilleuse, toujours extraordinaire, qui comprend si bien sa fille, etc. Alors qu'en réalité, on sait qu'il n'en était pas tout à fait exactement de même. C'est cette espèce de personnage inventé par Colette, d'embellissement continuel, qui moi me gêne un tout petit peu et qui fait qu'au contraire, je trouve, j'aime cette honnêteté, j'aime cette espèce de lucidité chez Beauvoir qui fait qu'on peut s'y retrouver. Je n'y reconnais pas mon rapport avec ma mère, mais je peux me projeter dans ce qu'une fille peut expérimenter avec sa mère. Simone de Beauvoir, à ce moment-là, au moment où sa mère est si faible dans son lit, si abandonnée en quelque sorte, découvre une femme qu'elle n'avait jamais vue avant.
On va se quitter avec les yeux de ma mère, non pas la mienne, celle d'Arnaud. Entre la mère d'Arnaud, la mère de Simone de Beauvoir et la mère de Colette. On va y venir dans un instant avec l'arrivée de Géraldine Mostel-Savoie pour son journal de la philo. Un grand merci à vous, Jean-Louis.
Merci.
Je renvoie les auditeurs aux deux tomes des mémoires de Simone de Beauvoir qui viennent de paraître dans la bibliothèque de la Pléiade. Quand je dis viennent d'eux, c'était hier. Donc vous pouvez les procurer, vous les procurer à partir d'hier, c'est-à-dire d'aujourd'hui. Sur France Culture, les chemins de la philosophie, il est temps de retrouver le journal de la philo de Géraldine Mostel-Savoie.
On n'est pas là pour philosopher, Carpentier.
Quand même. Incroyable.
Bonjour Géraldine.
Bonjour Adèle, bonjour à toutes et à tous.
Aujourd'hui, vous reprenez notre discussion quasiment là où nous l'avons laissée avec Jean-Louis Janel, puisque en tout cas, vous la prolongez en restant sur Simone de Beauvoir.
Simone de Beauvoir a écrit Le deuxième sexe, et parce que vient de sortir le livre État de la femme, l'identité féminine dans la fiction occidentale de Nathalie Hennick, eh bien moi, je vais vous parler de la seconde. Alors la seconde, vous voyez, c'est cette figure que l'on trouve beaucoup dans les romans et films du 18e à aujourd'hui. C'est la maîtresse, c'est la seconde épouse ou compagne, la jeune fille à marier, la vieille fille, bref. La seconde, ce sont toutes ces femmes qui ne sont pas encore ou plus la première, la seule et l'unique.
Êtes-vous blessé, monsieur ? Puis-je faire quelque chose ?
Éloignez-vous seulement un peu. Passez, pilote !
Si vous êtes blessé, monsieur, et que vous ayez besoin de secours, j'irai en chercher.
Merci, je ne me suis rien cassé. Une entorse, voilà tout. Vous devriez continuer votre chemin.
Je ne vous abandonnerai pas sur cette route solitaire avant de m'être assurée que vous pouvez vous remettre en selle.
Dans son livre, qui n'est ni un plaidoyer féministe ni un commentaire littéraire, mais revendique au contraire une neutralité axiologique, qu'on imagine donc aussi bien politique qu'esthétique, Nathalie Hennick part de l'héroïne de Charlotte Brontë, Jeanne Eyre. Ce qu'on vient d'entendre, l'extrait qu'on vient d'entendre, soit celle qui expérimente tous les états de la seconde, je cite, de la jeune fille qu'elle est à la vieille fille qu'elle s'apprête à être, puis à celui de maîtresse qu'elle refuse et enfin à celui de seconde épouse auquel elle finit par consentir. Si Jeanne Eyre est exemplaire de cette figure de la seconde, on pourrait presque dire pourtant que la seconde, eh bien, c'est un peu toutes les femmes, car qui n'a jamais été seconde ou secondée. Et comme le dit Simone de Beauvoir, la femme, toujours déterminée face à l'homme, c'est aussi le deuxième sexe, l'autre sexe. D'où ma question aujourd'hui, de seconde à deuxième et inversement, les femmes sont-elles des éternelles numéro 2 ?
How could I ask you to love me when I knew you loved Rebecca still? Whenever you touched me, I knew you were comparing me with Rebecca.
What is the mystery of Rebecca? What dread secret is hidden within the silent walls of Manderley?
It's not only in this room. It's in all the rooms in the house. You can almost hear it now. Do you think the dead come back and watch the living?
Qu'est-ce que ça fait de passer après, d'être deuxième, second, numéro 2, d'être la suivante, celle qui est dans l'ombre après coup? Eh bien, c'est tout l'enjeu du roman de Daphné du Maurier et de son adaptation cinématographique par Hitchcock, Rebecca, qui est citée par Nathalie Hennick. Et passer après, dans ce cas-là, eh bien, c'est déjà ne pas avoir la priorité, être légué au second plan, et par là même, c'est ne pas avoir de nom et ne pas avoir d'identité, car Rebecca, je le rappelle, c'est la première épouse et non l'héroïne du roman et du film. Être seconde, c'est donc être un double, fantomatique, un élément de plus, un reflet sans substance, ni unicité, ni ipséité. Mais dans Rebecca, paradoxalement, ce sera en fait une libération. La seconde épouse de Maxime de Winter, parce qu'elle n'est pas la même que Rebecca, parce qu'elle ne lui est pas identique, va avoir la liberté d'être une autre et d'être nouvelle. Et c'est bien une manière de réhabiliter cette seconde place des femmes en disant que passer après, c'est être dans l'ombre, oui, mais c'est surtout ne pas être obligé par le regard des autres et c'est aussi avoir le pouvoir. Alors je renvoie ici à la fameuse expression aussi de femme de l'ombre, par exemple, qu'on invoque souvent. Mais a-t-on vraiment le pouvoir quand on ne se montre pas, quand la seconde reste cachée, définie par rapport à une première épouse ou même tout simplement par rapport à un partenaire ?
Je m'appelle Claudine, j'habite Montigny, j'y suis née en 1884 et probablement je n'y mourrai pas. Mon manuel de géographie départementale s'exprime ainsi. Montigny en Frénois, jolie petite ville de 1850 habitants, construite en amphithéâtre sur la Thèse, on y admire une tour sarrasine bien conservée. Moi, ça ne me dit rien du tout ces descriptions-là. D'abord, il n'y a pas de Thèse. Je sais bien qu'elle est censée traverser des prés au-dessous du passage à niveau, mais en aucune saison, vous n'y trouveriez de quoi laver les pattes d'un moineau. Montigny construit en amphithéâtre? Non, je ne vois pas ainsi. À ma manière, c'est des maisons qui dégringolent depuis le haut de la colline jusqu'en bas de la vallée. Ça s'étage en escalier au-dessous d'un gros château, rebâti sous Louis XV, et déjà plus délabré que la tour sarrasine, épaisse, basse, toute gainée de lierre qui s'effrite par en haut un petit peu chaque jour.
Et voilà, ce Colette, on peut l'offrir à Jean-Louis Janel, qui en a dit tant de bien pendant l'émission.
Mais Claudine, elle ne parle pas de Sido, elle ne parle pas de sa mère. Donc Claudine de Colette, voilà une héroïne qui a un nom et le dit. Dans le livre de Nathalie Hennick, où il y a à peu près 250 références qui sont convoquées, il faut souligner la place qui est faite justement à Colette, dont on parle, je trouve, trop peu. Et à ses personnages féminins, Fanny, René, Léa, entre autres, toutes des secondes, que du deuxième sexe. Mais celles-ci ne sont pas faussement réhabilitées au statut de femme de et femme de l'ombre, mais avant d'être à la place de seconde, elles ont déjà une place, elles ont une visibilité, elles n'ont pas une fonction mais un rôle. Elles ne se définissent pas par rapport à une première ou un premier individu, mais par rapport à elles-mêmes, seules, mettant ainsi en échec toutes ces identités figées pour leur préférer une multiplicité de figures en perpétuel renouvellement.
Merci Géraldine. Un mot sur Colette, Jean-Louis Janel ?
Je regrette d'avoir dit ce que j'ai dit sur elle.
Non, mais c'est quand elle parle de sa mère.
Non, c'est très beau, j'avoue.
Pour les Claudine, il faut les lire. Oui,
pour ceux qui ne savent pas de quoi on parle, bien réécouter l'émission, parce qu'en parlant de la mère de Simone de Beauvoir, vous avez parlé de la mère de Colette et vous en avez dit le plus grand mal. Géraldine, vous nous conseillez de lire quels ouvrages ?
Donc, Nathalie Hennick, État de femme, l'identité féminine dans la fiction occidentale, c'est paru aux éditions Gallimard. Et puis je signale que le privilège de Simone de Beauvoir, de Geneviève Fraisse, reparé aux éditions Folio. Et puis il faut lire Colette.
C'est noté. Votre chronique est à réécouter en ligne sur le site du journal de la philo. Un grand merci à Isis Jourda qui a préparé cette émission avec Marianne Chassor, David Pargamin, Maud Markiewicz, Géraldine Mosna-Savoie bien sûr, Olivier Bétard qui a réalisé cette semaine, Jean-Guy Limbège qui est à la prise de son aujourd'hui et qui vous salue, Nicole Garcia qui a lu les textes pour nous cette semaine. On se retrouve lundi prochain pour une nouvelle série sur la vie secrète des philosophes, du procès Althusser, au silence coupable de Maurice Blanchot, de Saint-Simon, le roi du secret, jusqu'à Freud, confidence pour confidence. La semaine prochaine, vous serez tout sur ce que ces philosophes veulent vous cacher. Vous verrez, c'est passionnant. Exceptionnellement, cette série ira jusqu'à vendredi 25 mai où la vie secrète des philosophes sera une vie amoureuse et passionnée à partir de la correspondance entre Camus et Cazares, les deux amoureux clandestins. Rendez-vous lundi pour cette nouvelle série. Donc, mais d'ici là, si vous souhaitez réécouter cette émission sur Simone de Beauvoir, celle sur l'inquiétude qui vient d'être diffusée, eh bien c'est très simple. Rendez-vous sur le site de France Culture, à la page des Chemins de la Philosophie. Vous pouvez écouter l'émission en ligne ou bien la télécharger, la podcaster pour l'écouter où vous voulez et quand vous voulez. Rendez-vous également sur les réseaux Twitter, Facebook, Instagram, où nous attendons vos remarques et commentaires. Rendez-vous lundi à 10h donc. Mais d'ici là, restez à l'écoute sur France Culture.